Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon vendredi. J'espère que vous allez bien pour la dernière émission du mois de février de C'est bon pour la santé sur Canal M. C'est Marianne Paquette derrière ce micro pour les 30 prochaines minutes. La crise d'appendice est reconnue comme étant très douloureux. Et ce que l'on sait peut-être moins, c'est que ça peut avoir un impact grave sur la santé. En deuxième partie d'émission, Jocelyne Gadebois, elle qui est infirmière, nous apprend à reconnaître efficacement les symptômes quand survient une crise pour pouvoir réagir efficacement. Mais d'abord, les maladies rares, qu'on appelle aussi les maladies orphelines, ça touche à peu près 500 000 Québécois. Des maladies qui sont parfois difficiles à diagnostiquer, souvent incurables. Mais peut-être l'une des plus grandes difficultés, c'est que parce qu'elles sont rares, il y a peu d'argent investi dans la recherche des causes, dans la découverte des traitements également. Demain, c'est la Journée internationale des maladies rares et c'est un superbe prétexte pour inviter Gaëlle Ouellette, elle docteur en génétique et présidente directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines, à venir nous en parler. Gaëlle Ouellette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présente à ce micro. Vous êtes une habituée du Canal M et c'est la première fois que j'ai la chance de vous parler. 500 000 Québécois touchés par les maladies orphelines, et ça comprend 50 000 enfants. C'est beaucoup. Pourquoi on les appelle rares dans ce cas-là?
Oui, c'est beaucoup dans l'ensemble, mais il y a des milliers de maladies rares. Donc, chacune, il y a peu de gens, puis... sont isolées chacune les unes des autres aussi. Et il y a quelques associations, mais c'est pour ça que finalement, on entend peu parler. C'est quand même 5 % de la population au Québec, mais...
Ah oui, c'est énorme.
Puis une autre raison, c'est qu'ici au Québec puis au Canada, c'est pas encore considéré officiellement une catégorie de maladie. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, c'est plus reconnu.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au regroupement, vous militez pour réclamer une stratégie nationale afin de les identifier, c'est ça, Gaëlle?
Oui, et tout à fait, qu'elle soit, dans le fond, reconnue comme une catégorie de maladie avec des caractéristiques spécifiques, des obstacles spécifiques aussi dans le milieu de la recherche et de la santé. Et ça existe ailleurs. On les appelle souvent les plans nationaux maladies rares dans plein de pays en Europe.
Il faut quoi pour dire qu'une maladie est reconnue comme orpheline? Est-ce qu'il y a des caractéristiques à suivre?
Bien, en fait, l'appellation orpheline, ça vient il y a plus de 30 ans aux États-Unis, la première organisation qui s'est formée puis qui a un peu milité pour la reconnaissance. C'était en lien avec le développement de thérapie. C'est-à-dire qu'on a défini qu'une maladie est orpheline s'il y a peu de recherche et pas de développement de thérapie. Orpheline de thérapie. Alors, c'était très pointu comme définition. Puis de là est venue une loi qu'ils ont appelée le Orphan Drug Act aux États-Unis, donc une politique de médicaments orphelins. Mais c'est devenu, après un terme un peu plus général, associé aux maladies rares. C'est rare qu'il y ait une définition, en fait. C'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000 dans la population. Mais comme elles sont rares et qu'il y a moins de recherches, qu'il y a des difficultés dans le milieu de la santé pour ces personnes-là, puis même dans la société en général, bien, on les appelle orphelines.
Est-ce que l'on connaît, je le disais tantôt, là, parce qu'il y a peu d'argent, on connaît plus ou moins les causes, mais on sait que c'est parfois génétique, je pense, une maladie rare?
En fait, la plupart du temps, c'est génétique.
OK.
Environ 7000 maladies rares, 80% sont des maladies d'origine génétique. Et puis, génétique, c'est pas toujours héréditaire, mais de nombreuses maladies sont héréditaires en plus, ce qui veut dire que ça touche plus qu'une personne, ça touche une famille.
Oui.
Mais c'est vraiment la cause principale. Ensuite, deuxième cause plus fréquente, ce serait les maladies du système immunitaire, immunodéficience. Et il y a toutes sortes d'autres petites causes là, moins fréquentes, mais importantes et souvent oubliées, des infections très, très rares, des intoxications rares, des maladies professionnelles et, évidemment, des maladies dont on ne connaît même pas la cause.
Mm-hmm. Est-ce que l'on naît avec une maladie orpheline ou ça peut se développer plus tard dans la vie?
À tous les âges, on pourrait avoir une maladie orpheline. Donc, ça peut être identifié pendant la grossesse, ça peut être identifié à la naissance, ça peut se développer durant l'enfance, l'adolescence, durant la période adulte jeune ou même très âgée.
OK, donc personne n'en est protégé à quelque part.
Oui. Non, tout le monde pourrait toucher.
Et pour vivre, ben, c'est-à-dire pour être touché par une maladie orpheline, il faut, peut-être pas dans tous les cas, mais quand c'est génétique, que les deux parents soient porteurs de ce gène-là qui est malade.
Oui, il y a plusieurs modes de transmission héréditaire, les plus fréquentes étant celles-là qu'on appelle récessives. Alors, c'est deux parents qui sont porteurs, puis ils ne savent même pas,
ben oui,
parce que ils n'ont aucun symptôme, parce qu'ils ont seulement la moitié de leurs deux copies de gènes, finalement, qui est touchée. Mais s'ils passent chacun le gène défectueux à leur enfant, là, l'enfant va développer la maladie. Ce qui fait que souvent même, les gens, c'est une surprise, hein, parce que là, ils n'ont pas d'antécédents familiaux. Ça, c'est une forme fréquente. Puis l'autre forme fréquente, c'est le dominant, qu'on appelle ça. On le voit de génération en génération dans une famille.
Et je posais cette question-là, Gaëlle, parce qu'il y a des régions au Québec qui sont particulièrement touchées par les maladies orphelines. On pense Saguenay, Charlevoix et des familles aussi. Il y a la famille de Pierre Lavoie qui est connue maintenant, qui milite énormément pour les maladies orphelines, qui lui a perdu deux enfants.
Oui, tout à fait. Puis c'est une maladie récessive, l'acidose lactique congénitale. Présentement, on fait auprès de la population du dépistage de porteurs de quatre maladies de ce type-là, récessif, héréditaire. Donc, c'est une région où il n'y a pas seulement ces quatre-là, mais plusieurs maladies plus fréquentes ou même spécifiques à nous ici au Québec ou très rarement vues ailleurs dans le monde.
Mm-hmm.
Ça, c'est cette région-là, mais il peut y en avoir dans d'autres régions du Québec, la Naudière. On a des formes d'ataxie qu'on appelle la taxi de Portneuf, la taxi de Beauce. Mais ça, il y a plusieurs pays aussi qui ont leur, comment on pourrait dire, leur propre maladie plus fréquente.
Mais est-ce que l'on sait pourquoi ça arrive? Pourquoi ça se niche dans une région en particulier?
Je suis contente que vous me le demandiez, parce que pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a tellement de gens qui croient encore que c'est la consanguinité.
Ben oui.
Les gens se sont mariés entre eux, puis ils ont eu des enfants. Et non, c'est ce qu'on appelle un effet fondateur. Finalement, nos fondateurs qui sont venus de la France sont arrivés. Il y en a qui sont arrivés avec des gènes défectueux. Puis, c'est la façon qu'il y a eu, les régions se sont développées, Québec, après ça, Charlevoix, Saguenay. Le déplacement de ces gens-là avec leurs gènes fait que des fois, il y a une concentration de certains gènes. Puis là, évidemment, chez nous et dans cette région-là, il y a eu les familles avaient tellement d'enfants, hein, mm-hmm. ça, c'était pas rare de voir une douzaine, quinzaine. Alors là, c'est les gènes, il y a plus de gènes défectueux donc dans la population, mais ça n'a rien à voir avec la consanguinité.
Mm-hmm. On le disait tout à l'heure, il y a des milliers de maladies orphelines, là, à peu près 7000. On ne les connaît pas tous, mais en tout cas, du moins, le grand public ne les connaît pas toutes, ces maladies-là. Mais il y en a qui sont plus connues que d'autres, comme la fibrose kystique, par exemple. Pourquoi on en parle davantage que d'autres qu'on n'est même pas capable encore de prononcer le nom?
Moi, je vais vous dire les deux là, que je pense que la plupart des gens entendent parler. C'est la fibrose kystique, effectivement, et la dystrophie musculaire de Duchenne, ou en tout cas les dystrophies musculaires. Pourquoi? En fait, il y a une bonne raison historique. C'est dans les premières maladies où les gènes ont été identifiés. Vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas facile de trouver des gènes. C'était tout un travail de longue haleine, des années. Et donc, ça a été quelque chose là, quand on a trouvé les premiers gènes de maladie. Et ce qui a aidé au développement l'identification de ces gènes-là, c'est les associations de patients qui se sont formées, des grosses équipes de recherche.
Ah.
Donc, ces associations-là ont été dès le départ, ils ont été très actifs, connus, donc sont plus grosses, sont plus connus. Ils réussissent à recueillir quand même beaucoup d'argent pour leur recherche. Donc, sont plus visibles. Mm-hmm. Ils sont plus visibles.
Et c'est probablement ce qui va arriver dans les années à venir avec l'acidose lactique grâce à Pierre Lavoie.
Ah oui, je pense que ça, on est déjà rendu là. Hein, avec l'acidose lactique, c'est une des maladies les plus connues. Malgré qu'elle soit rare, plus fréquente dans cette région-là, mais quand même rare, bien quand même, c'est connu. Puis lui aussi, il a su développer une grosse équipe de recherche aussi.
Mm-hmm. Parce que j'imagine que la plus grande difficulté... C'est difficile de parler des symptômes, Gail, aujourd'hui, parce que on l'a dit, là, il y a des milliers de maladies, donc vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes. Mais il y a un symptôme qui est peut-être le même pour toutes les personnes et les familles touchées par une maladie orpheline, c'est la solitude ou du moins l'isolement.
Ah, c'est une bonne façon de l'amener, là, je trouve, parce que effectivement, quand vous avez le cancer, vous avez le diabète, vous avez fait un infarctus, vous avez une maladie cardiovasculaire, un AVC, vous dites ça, vous l'annoncez, ça arrive, les gens savent c'est quoi, les gens, ils vont même travailler fort, aider à ramasser de l'argent, ils vont... Mais si vous annoncez à quelqu'un, comme quelqu'un a témoigné hier dans un événement qu'on tenait, que vous souffrez d'angiodème chronique idiopathique... déjà, quand vous l'annoncez, les gens disent « Quoi? » Et puis, les gens rapportent qu'il y a comme une espèce de gêne, on ne sait pas trop. Puis, souvent, ces maladies-là ne paraissent nécessairement pas, là. C'est pas tous les jours, c'est intermittent. Puis, alors, les gens le rapportent, hein? Les gens ne savent pas comment se comporter avec eux. Ils pensent qu'ils exagèrent peut-être. Puis les familles, les parents qui ont des enfants, c'est quelque chose d'avoir un enfant qui a une maladie rare complexe, qui demande beaucoup de soins. Alors, les parents, forcément, ils en parlent. C'est tellement une grande partie de leur vie que souvent, ça éloigne des amis. Puis, en fait, ils ont de la difficulté aussi même à continuer là, à sortir avec leurs amis. Le gardiennage, c'est pas facile pour un enfant comme ça. Puis même leur propre famille. On a même... Il y a une maladie où on voit particulièrement où les gens sont ostracisés dans leur propre famille comme si on les croyait pas.
Oui, et puisque parfois le diagnostic, je le dis en introduction, est long à établir, on peut se demander, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la personne est vraiment malade? Je lisais des témoignages, vous avez sûrement entendu ce genre d'histoire-là, de gens qui ont été suivis en psychiatrie parce qu'on pensait qu'ils inventaient ça.
Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui se font dire, c'est dans votre tête. Puis ça, bien... C'est souvent des gens que finalement, on a trouvé une vraie maladie, là. C'est pas une connue, ouais. Je veux dire, une maladie connue. C'est sûr que là, quand on est face à une maladie qui est beaucoup moins connue, mais quand même, les gens mentent pas sur leurs symptômes puis ce qu'ils vivent, mais on va laisser ça. Soit les conseiller d'aller voir un psychologue. Il y en a qui ont été envoyés en psychiatrie et des mères qui ont été... faussement accusé du syndrome de Munchausen.
Ben oui, les os de verre, hein, je pense.
Munchausen, c'est le syndrome où c'est très rare, ça aussi, là. Fait qu'il faut pas voir ça partout, mais ce serait des mères qui inventent vraiment là, des symptômes et une maladie pour leur enfant, puis ils veulent qu'ils passent dans une sorte d'examen et test.
Je suis mélangée avec une autre maladie qui a un nom un petit peu compliqué, mais que l'on connaît ici sous maladie des os de verre. Et il y a des mères aussi qui ont été accusées, des parents en fait, pas juste des mères, accusées à tort de maltraitance quand au fond l'enfant avait cette maladie.
Oui, voilà. Alors, on est en train de parler des pires effets, je pense, impacts, conséquences qu'il peut y avoir quand une maladie rare n'est pas identifiée. Mm-hmm. Pour moi, c'est le pire. Quand un enfant est enlevé de ses parents, c'était à cause de faussement accusé de maltraitance et aussi des hommes qui ont été accusés de violence conjugale face à leur femme.
Mm-hmm. Quand elle souffrait de cette maladie-là. Mais c'est quoi la solution, Gaëlle? On pourrait tous faire comme Pierre Lavoie et créer des défis de militer, mais parfois, soit on n'a pas la force, soit on n'a pas les ressources, on n'a pas le réseau. On se tourne vers qui dans ce temps-là?
Bien, là, c'est sûr, nous, on fête nos 5 ans demain à la Journée internationale, puis je pense que notre première idée, ça avait été de regrouper les associations. Les associations comme neurofibromatose, tyrosinémie, hémiplégie alternante, c'est pas mal moins connu que dystrophie musculaire et fibrose kystique. Mais donc, on a voulu les rassembler, on en parle. Les individus qui n'ont pas d'association.
Oui.
Qu'ils trouvent une place pour échanger. Alors nous, quand on organise un colloque, on a parlé d'isolement, ils sont tellement contents d'échanger.
Mm-hmm.
Parce que même s'ils ont des maladies différentes, ils vivent beaucoup de choses semblables.
Oui, c'est ce qu'on entend.
Donc déjà regroupés. Ensuite, nous, on a créé un centre d'information et de ressources maladies rares. La seule place au Québec où on peut appeler « je veux de l'information sur ma maladie »,« où je peux être référée », dans le système médical ou des ressources communautaires. Et donc, on fait ça. Et il y a de plus en plus de demandes, donc c'est un besoin. Et la troisième chose, bien, c'est la stratégie québécoise en matière de maladies rares pour aider à réduire les délais diagnostiques, pour aider à une meilleure prise en charge médicale, pour l'accès aux services sociaux, pour qu'il y ait plus de recherche, pour qu'il y ait accès à des traitements.
Est-ce que les médecins au Québec sont suffisamment formés pour diagnostiquer ou encadrer des patients qui vivent avec des maladies orphelines?
Bien, nous, on trouve que non. Puis, on reconnaît des limites. Hein? Ils ne peuvent pas connaître 7000 maladies rares.
Bien
ils ne peuvent pas apprendre 7000 maladies rares. Même s'ils apprenaient, ils ne retiendraient peut-être pas. Puis, donc, hier, on a tenu un sommet où il y avait un atelier sur ce thème-là, formation et information dans le milieu médical, où il y avait des médecins qui participaient. Puis, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait au moins une conférence, un séminaire, on ne peut pas avoir tout un cours, mais au moins 3 heures pour les étudiants en médecine sur les maladies rares, les obstacles que les gens vivent, les difficultés, puis des pistes là, pour y penser à telle maladie rare pour aider au diagnostic.
Mm-hmm.
Puis que l'information puisse circuler mieux dans le milieu médical parce qu'il manque de ressources et de temps aussi, les médecins, surtout les spécialistes. Alors, leur donner, trouver une façon facile qui est l'information. On a déjà créé, nous, une base de données Orphanet Québec, qui est lié à une base de données internationale où on met nos ressources et activités en maladies rares au Québec. Mais c'est à développer encore plus.
Oui. Et il faut souligner la création de ce Centre des maladies génétiques rares du CHU Sainte-Justine. La nouvelle a été lancée il y a une dizaine de jours, Gaëlle. Et ça va permettre, j'imagine, des avancées assez intéressantes.
Ah oui, c'est sûr. Toute initiative où il y a plus de recherche. Puis je dois dire que je me suis même grondée récemment que je ne devrais plus dire qu'il n'y a pas de recherche ou peu de recherche, parce que là, il commence à y avoir un intérêt. Il y en a déjà depuis plusieurs années dans le reste du monde, mais là, au Québec, il y en a. Donc, un centre comme ça, c'est bienvenu. Puis en plus, la mission semble être plus que la recherche. C'est aussi pour, justement, bien là, maintenant, en génétique, là, ça, il y a eu tellement de développement que ça permet un diagnostic plus des maladies non diagnostiquées, inconnues. Fait que ça, c'est un bon point. Puis, ça aiderait la prise en charge, évidemment. Puis...
Très rapidement, en terminant, est-ce qu'il y a des ressources financières pour ces familles-là?
Pour les familles, c'est les familles avec les enfants. C'est quand c'est des maladies infantiles, c'est plus facile d'en trouver. Nous, on réfère, on a une vingtaine de fondations inscrites sur notre site. On réfère des familles-là. Ils peuvent demander d'équipement, une voiture adaptée, etc. La pire tranche d'âge, c'est 18 ans, 65 ans. C'est long, hein?
Ben oui.
Mais c'est quand on n'est pas en pédiatrie puis quand on n'est pas suffisamment âgé.
En gériatrie.
Puis ça, c'est beaucoup de gens qui perdent leur emploi à cause de leur travail, qui sont donc sur l'aide sociale. Et là, il n'y a pas beaucoup de fondations pour les aider. c'est comme ça, on aide plus là, les enfants, ça touche plus les gens.
Gaëlle Ouellette, vous êtes docteure en génétique et présidente directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Bonne journée demain internationale des maladies orphelines. On va sur votre site rqmo.org pour avoir les détails. Là, il y aura des événements et puis merci beaucoup, beaucoup de votre passage.
Merci, puis j'annonce qu'il y a un événement à Québec, entre autres.
Oui, allez voir c'est vrai, ça. Demain.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Jocelyne Gadebois, bonjour.
Bonjour, Marianne Paquette.
La crise d'appendice est un sujet facile pour vous. Vous m'avez dit ça pendant l'intermède musical. Pourquoi donc? Parce que j'ai l'impression que peut-être facile, mais douloureux en tout cas.
Ah oui, l'appendicite, c'est douloureux en effet. C'est d'ailleurs le premier symptôme que l'on ressent pour dire qu'on a un problème de santé quand ça se produit.
Et souvent, moi, je trouvais important d'en parler aujourd'hui parce que les gens, quand ils ont des douleurs au ventre, notamment à droite, vont dire « Ah, c'est ce que j'ai », pas tout le temps. Là.
Non, ne sautons pas tout de suite les étapes. Ben, c'est sûr que c'est un médecin qui va être capable d'évaluer cette douleur-là, qui parfois est accompagnée de d'autres symptômes comme nausées, vomissements, aussi irradiation dans le dos un petit peu, irradiation à la cuisse un peu. Mais c'est une douleur très particulière. C'est ça qui la caractérise. C'est une douleur qui va souvent commencer à l'ombilic. Qui va souvent commencer au nombril et qui va vraiment descendre progressivement vers la fosse iliaque droite.
OK.
Alors, si on s'imagine une ligne en ligne droite, une ligne entre l'ombilic et la fosse iliaque droite, et qu'on pèse à cet endroit, sur cette ligne-là, on va y avoir une grosse résistance, une grosse douleur aiguë.
Donc, ça fait mal quand on touche.
Oui, c'est une grosse résistance abdominale et ça va faire mal, une douleur aiguë. Alors, c'est cette douleur-là, à ce point précis-là, qui fait la différence avec les autres douleurs qu'on peut ressentir au niveau de l'abdomen, effectivement.
Jocelyne, c'est quoi l'appendice?
L'appendice, qu'est-ce que c'est? C'est une petite virgule.
C'est
une petite virgule d'à peu près 1,5 cm, 2 au plus, qui se situe à l'entrée du gros côlon. Okay. Vous savez, on a l'intestin, là, on a comme 15-20 pieds d'intestin, là, ou 10 pieds, et quand on arrive dans le gros intestin qui entoure tout ça, le début du gros intestin, au niveau du cæcum, ça s'appelle, il y a cette petite virgule-là qui est un tissu lymphoïde, peut dire. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il y a une appendicite? C'est que d'abord, elle peut s'inflammer parce qu'il y a une accumulation de sel ou de mucus ou d'accumulation de tissu comme tel, un épaississement du tissu, on va le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça fait un blocage. Ça fait un blocage. Et là, il y a des risques, de l'inflammation sûrement, mais il y a des risques d'infection.
Et d'éclatement. Ah, voilà.
Voilà. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on ne doit pas trop attendre quand on pense qu'on a une douleur abdominale à cet endroit-là. On va laisser le médecin faire son diagnostic. Puis, il arrive parfois qu'ils font des chirurgies parce que c'est le traitement de choix, la chirurgie, on va l'enlever. Et il arrive parfois que c'était pas là le problème, c'était ailleurs. Mais si on l'a pas, c'est pas grave. Mm-hmm. On va vivre
oui, on
quand même.
Vivre, on peut vivre oui. sans. Ça veut dire, Jocelyne, que tout le monde peut subir, ou du moins vivre, une crise d'appendice.
Bien, les personnes à risque sont surtout entre 10 ans et 30 ans.
OK. Oh.
Surtout entre 10 ans et 30 ans.
Je suis protégée.
Vous êtes protégée. Oui. Ça peut arriver aussi à d'autres âges, mais on a remarqué que la fréquence de ce problème de santé se situe entre 10 et 30 ans.
OK.
Particulièrement chez les hommes.
Bon.
Plus fréquemment chez les hommes que les femmes.
Doublement protégée dans ce cas-là. À quel moment il faut se rendre à l'hôpital? Se dire, là, c'est sérieux, je prends pas de risque.
C'est une douleur qui persiste, un bon 3-4 heures. Et on a de la fièvre aussi. Quand on a de la fièvre, ça peut être de la fièvre très légère, là, 38,2, 38, 38,4, ça part, ça revient, mais la douleur est constante, puis on commence à pas se sentir bien, bien, on s'en va à l'urgence. Mm. Quand on a un problème abdominal, là, comme ça, là, c'est mieux d'aller à l'urgence parce que on a les examens sanguins qui vont être faits, on a la radiographie abdominale qui va être faite. Puis c'est à peu près les seuls examens qu'on va faire pour détecter, je veux dire, le médecin va faire son évaluation, là, parce qu'il va palper l'abdomen, puis il va trouver cette fameuse douleur. Mm-hmm. Puis c'est suite à ça qu'on va refaire au chirurgien, puis qu'il va prendre la décision d'opérer ou pas.
Et bien sûr, pour éviter cette explosion-là, qui doit être une complication assez importante.
Absolument, mm-hmm. absolument, tout à fait. Alors, c'est plutôt qu'on y va plus tôt que plus tard. Quand on a un problème abdominal, on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut être n'importe quoi d'autre, hein? Surtout quand il y a irradiation de la douleur. Ça peut être au niveau du rein, ça peut être au niveau du foie qu'on sent une douleur tout le long de notre côté à ce moment-là, au niveau de l'abdomen. Ça peut être des diverticulites, ça peut être n'importe quoi. Alors, le médecin va être équipé pour essayer de trouver à qu'est-ce qui se passe exactement? Mm-hmm. Des fois, ils vont faire une chirurgie exploratoire, tout simplement.
Et si on a à subir cette intervention-là, est-ce que ça se passe bien? Il faut être hospitalisé
ben oui.
longtemps?
Non, pas du tout. C'est devenu presque une chirurgie d'un jour, je dirais. Mm-hmm. Alors, deux façons. On peut ouvrir l'abdomen avec une incision ou on peut y aller avec une laparoscopie.
Okay.
Alors, laparoscopie, on fait deux, trois petits trous, puis on rentre une petite caméra. Le médecin, avec son dissécateur, va l'enlever tout simplement. Et si c'est une chirurgie avec une incision, bien, à ce moment-là, il faut prendre les précautions pour ne pas faire d'infection à l'incision. Alors, les risques d'une chirurgie abdominale par incision, c'est surtout ça.
Donc,
voilà.
Raison de plus pour aller consulter là, si on a des doutes ou des inquiétudes. Puis en plus, ben, c'est possible de vivre sans l'appendice.
Absolument, parce qu'on a d'autres organes qui, qui sont lymphoïdes et qui stimulent le système immunitaire amplement.
Jocelyne Gadebois, j'aimerais vous réinviter dans deux semaines, parce que ce sera notre rendez-vous, de parler peut-être des amygdales, un autre bout dont on n'a pas besoin.
Mais oui, c'est une historique là-dessus aussi, avant puis aujourd'hui.
Jocelyne Gadebois, vous êtes infirmière. Merci beaucoup de votre passage à l'émission, rapide mais toujours agréable.
Merci beaucoup.
Rémière Monzeau à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Je vous souhaite un très beau week-end. Reposez-vous. À lundi. Bye bye.